La vie de résurrection. En Jean 20, nous voyons le Seigneur Jésus ressuscité hors du tombeau, après avoir accompli l'œuvre de la réconciliation. Ici, il n'est pas dit que Dieu l'a ressuscité. Certes, cela est vrai, et l'apôtre Pierre dit aussi en Acte 2, verset 32,
« Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous, nous sommes tous témoins. »
En Jean 20, toutefois, nous trouvons que le Seigneur est ressuscité par sa propre puissance divine. Il est sorti de la mort par la même puissance avec laquelle il a ramené de la mort la fille de Jaïrus, le jeune homme de Naïn et Lazare. Ainsi, il a prouvé qu'il était lui, le Fils de Dieu. Romains 1, verset 4.
Déterminé Fils de Dieu en puissance selon l'Esprit de sainteté par la résurrection des morts, Jésus-Christ notre Seigneur.
Ce Jésus se manifeste d'abord à Marie de Magdala. Il l'avait délivrée de 7 démons. Elle avait été entièrement sous le pouvoir de Satan. Mais Jésus avait brisé la puissance démoniaque et chassé les démons. C'est pourquoi son cœur était attaché au Seigneur de tout l'amour dont elle était capable. Hors de lui, elle n'avait rien sur la terre. Il est touchant de voir, dans le passage de Jean 20, versets 1 à 18, comme son cœur était rempli du Seigneur.
Jean 20, versets 1 à 18. Et le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore nuit. Et elle voit la pierre ôtée du sépulcre. Elle court donc et vient vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où on l'a mis. » Pierre donc sortit et l'autre disciple, et ils s'en allèrent au sépulcre. Et ils couraient les deux ensemble, et l'autre disciple courut en avant plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il voit les linges à terre, cependant il n'entra pas. Simon Pierre donc, qui le suivait, arrive, et il entra dans le sépulcre, et il voit les linges à terre et le suaire qui avait été sur sa tête, lequel n'était pas avec les linges, mais plié en un lieu à part. Alors donc l'autre disciple aussi, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra, et il vit et crut. Car il ne connaissait pas encore l'Écriture qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Mais Marie se tenait près du sépulcre dehors et pleurait. Comme elle pleurait donc, elle se baissa dans le sépulcre, et elle voit deux anges vêtus de blanc assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se tourna en arrière, et elle voit Jésus qui était là, et elle ne savait pas que ce fut Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'ôterai. » Jésus lui dit, « Marie ». Elle, s'étant retournée, lui dit en hébreu, « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient rapporter aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit ces choses.
Combien grande a dû être sa joie lorsque le Seigneur l'appela par son nom, et nous pouvons comprendre qu'elle ait salué avec une grande joie le Seigneur comme quelqu'un qu'elle pensait ne plus jamais revoir. Et maintenant, tout était de nouveau comme cela avait été avant cette terrible nuit où on l'avait pris. Mais voici la voix du Seigneur qui s'élève.
« Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. » Verset 17.
Tout n'était donc plus comme avant. Certes, c'était le même Jésus, mais un Jésus qui avait accompli à la croix l'œuvre de la réconciliation et était mort pour cela. Maintenant, il était ressuscité et possédait une vie de résurrection. De ce fait, tout était différent. Avant la croix, les disciples avaient été en contact avec le Seigneur. Ils l'avaient suivi, avaient écouté ce qu'il leur enseignait. Ils l'avaient servi avec leurs biens matériels. Mais malgré tout, ils étaient toujours restés seuls.
À moins que le grain de blé tombe en terre, ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24.
Maintenant, il ne leur était plus si proche corporellement, car sa vie de résurrection était toute différente de leur corps naturel. En revanche, d'une manière spirituelle, il était beaucoup plus près d'eux. Oui, le Seigneur glorifié dans le ciel leur était infiniment plus proche qu'il ne l'avait jamais été avant sa mort, car il les amenait dans la même position qu'il avait prise. Il les unissait à lui tel qu'il est à la droite de Dieu. Le Seigneur Jésus était le Fils éternel du Père. En cela, il est naturellement seul, et comme tel, il ne peut être que l'objet de notre adoration. Mais il était aussi le Fils de Dieu par sa naissance sur la terre.
Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Psaume 2, verset 7.
Et
la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Luc 1, 35.
Tant dans sa nature divine que dans sa nature humaine, il était le Fils de Dieu. De quelle manière parfaite il connaissait le Père. Et dans les évangiles, nous voyons comment il manifestait le Père aux disciples. Nulle part nous ne trouvons le Seigneur Jésus s'adresser à Dieu autrement que par « Père », sinon sur la croix. Mais jamais il n'a mis les disciples dans la même relation avec le Père que celle qu'il avait prise. Maintenant, nous voyons le Fils de l'homme, après qu'il a accompli l'œuvre de la réconciliation, mort mais aussi ressuscité par sa propre puissance divine. Et par ses premières paroles, il confère à ses disciples son titre et les place dans la même relation que lui avec le Père. Ce que le Père est pour le Fils, il l'est pour les fils. Ce que lui, le Père du Seigneur Jésus, était pour l'homme béni qui a ôté le péché, il l'est aussi pour ceux dont les péchés ont été ôtés. Dieu n'est plus seulement parfaitement révélé comme le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. Par la rédemption et la résurrection, par lesquelles nous sommes unis à Jésus glorifié dans le ciel, il s'est aussi révélé comme notre Dieu et Père. Quelle grâce, quelle position bénie! C'est là le vrai christianisme. Les Juifs ne pouvaient être en relation qu'avec un Messie vivant sur la terre, tandis que les disciples sont unis à un homme glorifié dans le ciel. C'est la grande différence entre le judaïsme et le christianisme. Et en Jean 20 commence le christianisme. C'est la famille de Dieu, dans laquelle Jésus appelle frères ses disciples qu'il a rachetés et les introduit dans sa position. Le second homme devient le chef d'une nouvelle race.
Le premier homme est tiré de la terre poussière. Le second homme est venu du ciel. Tel qu'est celui qui est poussière, tels aussi sont ceux qui sont poussière. Et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. 1 Corinthiens 15, 47-48.
C'était le message glorieux que Marie de Magdala devait porter aux disciples. Dans Jean 20, versets 19 à 23, cette vérité est encore développée.
Jean 20, versets 19 à 23. Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient par crainte des Juifs étant fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et il leur dit « Paix vous soit ». Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore « Paix vous soit ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus.
Le jour de la résurrection, les disciples sont ensemble. Ils ont fermé les portes,
car Jésus n'est plus avec eux pour les protéger officiellement comme Messie. Luc 22, verset 35-37.
Et il leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils lui dirent, « De rien. » Il leur dit donc, « Mais maintenant que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous dis qu'il faut encore que ceci qui est écrit soit accompli de moi, et il a été compté parmi les iniques. Car aussi les choses qui me concernent vont avoir leur fin. » Et ils dirent, « Seigneur, voici ici deux épées. » Et il leur dit, « C'est assez. »
Et cependant, il est au milieu d'eux, mais comme le ressuscité. Devant son corps glorifié, il n'existe ni porte ni serrure. Et ils entendent sa voix. C'est la voix qu'ils ont si souvent ouïe durant les années où ils le suivaient dans ses traites à travers le pays. Mais jamais ils n'ont entendu de telles paroles. Certes, il leur avait bien dit « ne craignez pas » lorsqu'ils étaient dans de grandes difficultés. Il avait promis de leur laisser la paix. Mais maintenant il leur dit « paix vous soit ». Et pour montrer pourquoi ils pouvaient dorénavant avoir la paix avec Dieu, il leur montre ses mains percées et son côté percé. C'était le fondement de la paix avec Dieu.
Ayant fait la paix par le sang de sa croix, Colossiens 1, verset 20.
La paix avec Dieu. En Genèse 6, verset 3, Dieu dit
« Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. »
Tant qu'il y a dans l'homme quelque chose d'opposé à la sainteté et à la justice de Dieu, oui, d'opposé à Dieu en quelque manière que ce soit, il ne peut pas y avoir de paix avec Dieu. Mais maintenant, l'homme Christ Jésus n'a pas seulement porté les péchés de tous ceux qui croient en lui. Bien plus, il a infiniment glorifié Dieu sur la croix. L'amour et la grâce de Dieu, la justice et la sainteté de Dieu, oui, toutes les perfections de Dieu ont été glorieusement manifestées par l'œuvre du Seigneur Jésus. Dieu a été glorifié dans l'homme Jésus, et il peut le considérer avec satisfaction. Le Seigneur Jésus a toutefois accompli l'œuvre pour nous. Tous ceux qui croient en lui sont vus un avec lui. Nous sommes unis à l'homme glorifié dans le ciel. Et le bon plaisir que Dieu a dans le Fils, en raison de son œuvre, repose aussi sur ceux qui sont unis à lui.
Nous avons la paix avec Dieu.
Puis le Seigneur dit une seconde fois,
« Paix vous soit. »
Mais il ajoute,
« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Il s'agit ici de la prédication de l'Évangile. Les disciples devaient aller et proclamer partout cette paix avec Dieu, comme le Seigneur l'avait fait.
Et il est venu, et a annoncé la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin, et la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient près, car, par lui, nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par un seul esprit, Éphésiens 2, verset 17-18.
Et il leur donna, pas seulement aux apôtres, mais à tous les disciples, la puissance de remettre les péchés ou de les retenir. Mais pour qu'ils aient la puissance et le discernement nécessaires, il souffla en eux et dit
« Recevez l'Esprit Saint ».
Est-ce que nous ne pensons pas aussitôt au passage de Genèse 2, verset 7, où Dieu souffla dans les narines d'Adam et en fit ainsi une âme vivante ?
Genèse 2, verset 7, « Et l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. »
Ici, nous voyons le dernier Adam, qui est en même temps Dieu lui-même, souffler en ses disciples dans sa puissance divine pour leur communiquer une vie nouvelle. Adam, en tant qu'âme vivante, est devenu le chef de sa famille, de sa race. Christ, le dernier Adam, est devenu, en vertu de son œuvre et de sa résurrection, le chef d'une nouvelle famille, d'une nouvelle race, de la famille de Dieu.
Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, un esprit vivifiant, 1 Corinthiens 15, verset 45.
Ici, il n'est donc pas question de l'effusion du Saint-Esprit dont il est parlé en Jean chapitre 4 et 7. Le chapitre 7, verset 39, dit expressément qu'elle n'aurait lieu qu'après la glorification du Seigneur.
Jean 7, verset 39. Or il disait cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
Et en acte 1, le Seigneur dit qu'elle aurait lieu dans peu de jours. Nous savons qu'elle s'est réalisée le jour de la Pentecôte. Mais ici, il s'agit de la vie nouvelle. Nous voyons en fait ici ce que le Seigneur Jésus enseigne en Jean 3, c'est-à-dire que celui qui n'est pas né d'eau et de l'Esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons Jésus ressuscité qui donne le Saint-Esprit comme vie nouvelle. Il est à remarquer qu'en grec, il n'y a pas d'article devant Saint-Esprit. De même, en Jean 3, verset 6, il n'est pas dit « ce qui est né de l'Esprit est l'Esprit », mais « est Esprit ». Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est devenu chair, mais le Saint-Esprit qui suscite une vie nouvelle, caractérisée par son origine. Elle est Esprit. Et pour les disciples, pour les chrétiens, cette vie nouvelle est la vie de résurrection, donnée par le Seigneur ressuscité. C'est sa vie qui les place sur le même terrain de résurrection que lui. Ils sont faits un avec Jésus, qui a accompli l'œuvre de la réconciliation, qui est ressuscité d'entre les morts et a reçu une place à la droite de Dieu. C'est cela le christianisme. Nous voyons là l'immense différence par rapport aux croyants depuis Adam jusqu'à la croix. Eux aussi étaient nés de nouveau et avaient la vie de Dieu. Mais ils n'avaient pas la vie de résurrection. Ils étaient sous la loi. Ils étaient soumis à toutes les ordonnances qui sont données à l'homme naturel. Mais comme le démontre si clairement le chapitre 8 des Romains, le croyant est délivré du péché, de la vieille nature, de la loi. Nous reviendrons plus en détail sur cela dans un autre chapitre.